Vous écoutez Balade Musicale avec Christophe Graveron.
BFM Radio 88 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, je suis ravi de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, ça va être une émission un peu particulière. Nous allons en effet sortir du cadre de la musique classique, mais pas complètement. Nous allons découvrir le nouvel album de la chanteuse de jazz sud-coréenne, Yoon Sun-na, sous le label Warner. Avec des chansons rendues célèbres par des artistes féminines emblématiques comme Nina Simone, Grace Jones et beaucoup d'autres. Mais pour débuter, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Jean-Yves Labatte de Rossi qui va nous parler de son livre « Rock Me Emin » sorti chez Artaud. Une histoire hallucinante et même abracadabrandesque pour reprendre le mot d'un ancien président de la République que même le plus fou des scénaristes n'aurait osé imaginer. Bonjour Jean-Yves Labatte de Rossi.
Bonjour Christophe.
Je suis vraiment ravi de vous accueillir sur IDFM Radio en balade musicale. Vous avez eu plusieurs vies, au moins trois. Étudiant à l'école des Beaux-Arts à Paris, passionné de rock, pionnier des synthés, vous avez créé votre groupe Baba Scolae en 1967 à l'âge de 20 ans. Avec lui, vous allez enregistrer un album mythique en 1969 à Londres, à l'époque du Swinging London. Mais en mai 68, étudiant contestataire, vous vous faites remarquer par les autorités qui résilient votre sursis d'incorporation. Vous êtes insoumis. Alors, direction l'Angleterre, puis les États-Unis, avec votre femme enceinte et deux valises, et pas n'importe où, à Woodstock, peu après le fameux festival de 1969, avec Jimi Hendrix, John Baez, Joe Cocker, Jefferson Airplane, etc., et devant un public de 500 000 personnes. Sobriété, jeûne et abstinence n'ont pas fait partie de votre art de vivre, à cette époque en tout cas. Vous êtes remarqué par une superstar du rock progressif, Todd Lundgren, qui vous engage sous le pseudo de Mr. Frog dans son groupe Utopia, jusqu'au jour où votre contrat est rompu par Albert Grossman, un manager de légende qui a dans son écurie des stars comme Bob Dylan, Janis Joplin, Peter, Paul and Mary, The Band et Utopia justement. Résultat, vous ne pouvez plus jouer aux États-Unis et votre situation financière est devenue critique. Mais en 1977, la roue tourne. Un producteur vous propose 250 000 dollars pour aller en Ouganda enregistrer une nouvelle version de Little Drummer Boy, le fameux chant de Noël, avec rien moins que Idi Amin Dada, le dictateur qui aime jouer de l'accordéon pour se détendre quand il ne jette pas ses opposants au crocodile. C'est l'histoire ahurissante que vous racontez dans votre roman d'aventure qui m'a passionné et beaucoup fait rire. On ne le quitte pas avant d'avoir terminé la lecture. Puis, vous abandonnez les synthés et vous devenez le patron d'un label de musique classique, Ad Vitam. Vous produisez des disques de très grande qualité dont nous nous sommes fait l'écho ici sur les ondes de IDFM Radio. Et maintenant, dans votre troisième vie, vous publiez votre premier récit, roman ou récit romancé, un texte qui porte la marque de votre jeunesse libertaire des années 1970. Et Rock Me Emin, sorti en janvier, rencontre un grand succès critique. Le Figaro, l'Express, Le Monde, l'Obs, le Figaro Magazine, Match, Rock et Folk, Rolling Stone, RFM, etc., etc. Et il va peut-être y avoir d'autres livres, Jean-Yves Labatte de Rossi. On en parlera sans doute plus tard dans notre entretien. Mais revenons sur le début de votre parcours musical avec Baba Scolae, un groupe de rock progressif. Alors une première question, Jean-Yves Labatte de Rossi, qu'est-ce que c'est le rock progressif? Quel style musical?
C'est une évolution du rock, surtout en Angleterre. Ça s'est passé en Angleterre à la fin des années 60, où après différentes fusions, il y a eu aussi le rock fusion, un peu jazzy, avec des évolutions apportées au rock and roll, notamment par Frank Zappa et les Mothers of Invention. On ne parlera pas bien sûr des Pink Floyd, qui sont le groupe phare en quelque sorte du rock prog. Ça a été une tendance évolutive du rock vers d'autres horizons, vers d'autres nuages, si je puis dire, sur une base de rock'n'roll, on arrivait à avoir une évocation parfois onirique. Voilà, je pourrais le définir comme ça.
Pour illustrer votre propos, on va vous écouter, Jean-Yves Labatte de Rossi, avec votre groupe Baba Scolae. Nous sommes en 1969. C'était 1984, Melancholia Street, sur IDFM Radio, Baba Scolae. le groupe fondé par notre invité Jean-Yves Labatte de Rossi, multi-instrumentiste, flûte, saxophone, bombarde, clavier et chant. Un disque sorti miraculeusement une quarantaine d'années après la séance d'enregistrement sous le label Ad Vitam, n'est-ce pas Jean-Yves ?
Oui, c'est une histoire assez drôle. Les bandes, les masters avaient été perdus. Donc au cours, je pense, d'un déménagement. Et voilà, je considérais les bandes perdues. Bon, c'était fort regrettable. Et un ami à moi, enfin l'ingénieur du son avec lequel je travaillais, John Holbrook, m'appelle il y a quelques années en me disant « Tu ne vas pas le croire, Jean-Yves, mais j'ai retrouvé les bandes du Baba dans une de mes vieilles valises en carton que j'avais mis dans mon grenier et en mettant de l'ordre dans mes affaires, je les ai retrouvées. Nous avions pensé à l'époque que les bandes avaient disparu avec son studio dans une inondation parce qu'il vivait très proche de l'Hudson River, upstate New York. Et là, non, pas du tout. Les bandes avaient été épargnées. Elles n'étaient pas avec les petits poissons. Elles étaient dans son grenier, dans cette vieille valise en carton qui devait dater du reste de son déménagement à Woodstock avec moi. Et les bandes étaient intactes et nous les avons donc ressorties sous forme d'un vinyle, bien sûr, et aussi d'un CD avec le label Ad Vitam.
Alors, on va franchir l'Atlantique, on va vous retrouver justement à Woodstock. Alors, avec Utopia et Todd Lundgren, vous êtes parti en tournée, vous avez fréquenté des studios d'enregistrement, j'imagine.
Oui, Todd Lundgren était déjà une star hein, qui scintillait au firmament de Bearsville Records à l'époque. J'enregistrais mon premier disque Mr. Frog, car Albert Grossman m'avait signé après avoir écouté justement les bandes du Baba Scolae. Todd, nous nous sommes rencontrés dans le studio de Bearsville. Du reste, à cette époque-là, lorsque j'enregistrais ce premier album, Mr. Frog, et nous nous sommes liés d'amitié. Et lorsque Todd a refondé son groupe, abandonné les Hello People pour créer Utopia, il m'a demandé si je voulais en faire partie. Et L'aventure m'a plu, donc j'ai intégré à ce moment-là la première mouture, oui, la deuxième mouture du groupe Utopia.
Et puis il y a eu cet incident de parcours avec ce producteur hyper puissant, Albert Grossman, qui a changé votre vie. Et dans votre malheur, vous avez eu quand même un admirateur.
Dieu le Père. Albert était Dieu le Père, c'est-à-dire c'était le Land Baron de Woodstock et c'était un manager, c'est un manager légendaire, Albert Grossman, bien sûr. Et pour parler cash, je me suis frité avec lui un beau jour, je me suis frité avec lui pour des questions d'engagement qu'il n'avait pas tenu à mon égard, ça a tourné vinaigre, et là, malheureusement, j'ai voulu en venir aux mains, et Albert m'a donné 24 heures pour quitter Woodstock, et m'a fait savoir que je ne retrouverai jamais plus un contrat aux États-Unis. Donc je ne vais pas raconter le livre, hein, n'est-ce
non,
pas, mais
bien
je
sûr.
N'ai pas quitté Woodstock, et j'ai été chercher mon salut au nord en passant la frontière dans un territoire où je n'étais pas banni ou boycotté, c'est-à-dire le Canada, et où j'ai signé à ce moment-là avec un label, avec Barclay North America.
Et alors, bon, on va vous écouter avec le groupe le Baba Scolae pour une seconde pièce, La chasse du serpent à la flûte.
Thank you.
C'était La chasse du serpent à la flûte, un titre singulier, par le groupe Baba Scolae, fondé par notre invité Jean-Yves Labatte de Rossi. C'était vous à la flûte ?
Oui, ça me rappelle des souvenirs, oui, c'était moi, oui.
Alors on va revenir à ce projet hallucinant de faire enregistrer une nouvelle version de Little Drummer Boy à Idi Amin Dada. Comment ça s'est passé, cette proposition qu'on vous a faite ?
Eh bien écoutez, j'étais parti donc au Canada chercher un contrat de licence et l'A&R, hein, Artist and Relation, à l'époque du label auquel je m'adressais, avait sur sa porte un drapeau ougandais. Donc il écoute mes bandes, il est assez sensible à ma situation lorsque je lui ai raconté mes déboires avec Albert, et puis tout d'un coup il a une idée, il regarde ce drapeau ougandais et il me dit, écoute Jean-Yves, tu peux tout faire avec ton synthé, pardonnez-moi l'expression, mais je cite dans le texte, pourquoi tu m'enregistres pas ce con d'Amin Dada, ce gros con à l'accordéon, et tu me le mets sur ton Little Drummer Boy, et là on fait un hit, je te promets, on fait un hit. Donc au début j'ai cru que c'était une très mauvaise plaisanterie. En réalité, il est très très sérieux. Ce personnage avait quand même la réputation d'être un hitmaker. Et après une courte réflexion, ben j'ai plongé, j'ai accepté ce pari fou d'aller en Ouganda enregistrer Idi Amin Dada à l'accordéon et le mettre et le synthétiser sur mon Little Drummer Boy, ma version de Little Drummer Boy.
Alors justement, on ne va pas écouter la version que les Français connaissent par Dana Mouskouri notamment, on va vous écouter, vous, ce sera votre propre Little Drummer Boy. C'était Little Drummer Boy, le thème que vous espériez enregistrer avec Idi Amin Dada à l'accordéon. Vous étiez entouré de sacrés requins de studio, Jean-Yves Labatte de Rossi.
Ah oui, j'avais enregistré, enfin sur cette version de Little Drummer Boy, j'avais de très bons musiciens avec moi, le percussionniste Maruga du Weather Report, Darius Brubeck, hein, de la famille Brubeck, tout le monde connaît son père, mais qui était un excellent clavier, une guitare synthétisée que j'ai synthétisée, c'était Stevie Leitch, et un saxophoniste de jazz, White Cage, qui était vraiment excellent. Donc, on a fini d'enregistrer et masteriser cette version au Record Plant, je pense, à New York, à l'époque, oui.
Alors, l'écoute de ce thème a déclenché cette aventure aussi rocambolesque que dangereuse à Kampala. Vous le racontez dans votre livre « Rock Me Emin », écrit avec la verve d'un Michel Audiard. On a l'impression que vous étiez un petit cousin d'OSS 117, n'est-ce pas ?
Malheureusement pour moi, si vous voulez, bon, au niveau de l'écriture, j'ai écrit ce livre en essayant de me replonger aussi fidèlement que possible dans le langage qu'on utilisait à l'époque, dans la façon aussi dont on se comportait. Bon, c'est une autre époque, on n'écrit pas 1977 comme on écrirait en 2020 ou...
Bien sûr.
2023, 2024, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc je me suis replongé dans cette époque et je l'ai raconté comme voilà en revivant cette époque et cette aventure qui est peut-être rocambolesque, mais qui a été très dur pour moi aussi. Je ne vais pas raconter le livre, mais bon, ça s'est quand même assez mal terminé.
Et malgré les mises en garde de personnes que vous avez rencontrées au bar de votre hôtel, l'International.
Oui, l'International à Kampala, c'était un peu que Casablanca, quoi, entre guillemets. C'était truffé d'agents de renseignement. Moi, j'étais très naïf, vraiment. Et je venais de Planète Woodstock, atterrissant dans Planète Amin.
Un autre monde.
C'était un autre univers, même. Et là, je ne me suis pas rendu compte vraiment de ce qui se passait, mais je pense que les gens m'ont pris pour un agent de renseignement, et notamment le fameux SRB, qui était rien d'autre que les services de renseignement d'Idi Amin, qu'on pourrait qualifier de Gestapo ougandaise.
Et pourtant, vous avez réussi à rencontrer Robert Essels, dit Major Bob, ou le Rat Blanc, qui était un ancien officier britannique devenu l'homme de confiance du président, qui était presque aussi redoutable que lui, d'ailleurs.
Tout aussi redoutable qu'Amin. Enfin, je pense que Major Bob, c'est Amin qui l'avait surnommé le Rat Blanc, c'était un malade. Enfin, c'était lui aussi, c'était un malade mental. Hein. Mais enfin, comme on était tous quand même bien allumés à l'époque, bon, ça me paraissait pas aussi bizarre que ça. Et en réalité, bon, c'était l'éminence grise d'Amin et un personnage redoutable, oui. Donc je l'ai rencontré, j'ai réussi à le convaincre du bien fondé de ma démarche, en lui proposant d'enregistrer son excellence à l'accordéon, et tout semblait bien marcher pour moi avant que je ne me fasse arrêter par le SRB, par les services de renseignement d'Amin, et là ça tourne vraiment très mal.
Dans un camp absolument effroyable dont a priori peu de prisonniers ressortaient vivants.
C'était le camp de la mort de Nacacero, hein. C'était connu comme un camp de la mort où l'espérance de vie était d'environ dépendant des cages, mais les prisonniers avaient très peu de chances de survivre et l'espérance de vie était 48 heures, je pense, au grand maximum, oui. C'était un abattoir.
Mais vous avez réussi à sortir, vous ne savez pas comment d'ailleurs.
Ça reste un mystère. mystère. Ça reste un mystère et je sais que parfois les lecteurs, enfin j'ai eu des retours de lecteurs ou de critiques qui me disaient mais on reste un peu sur notre faim, qui t'a fait sortir ? Je ne le sais pas. La question reste posée encore aujourd'hui, si ce n'est que c'est un miracle. C'est un miracle, mais enfin, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, j'ai pu m'échapper.
Alors on va vous écouter bien vivant avec un autre extrait de votre disque de 1969 avec Baba Skolae, c'est Half Day. Nous écoutions Half Day, un extrait du disque 69 Baba Skolae, un groupe de rock progressif fondé par notre invité, le multi-instrumentiste et compositeur Jean-Yves Labatte de Rossi, et aussi auteur d'un livre plein de verve et riche en rebondissements, très rock'n'roll, Rock Me Emin, paru chez Artaud. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à votre vie de producteur de disques de musique classique avec le label Ad Vitam. Racontez-nous la genèse de cette aventure qui a fêté ses 20 ans l'an dernier.
Alors, on peut retrouver les racines de ma démarche et de mon comportement après, dans l'expérience terrible que j'ai vécue en Ouganda, depuis cette expérience qui m'a quand même traumatisé, hein, il faut dire les choses comme elles sont, enfin qui m'a violemment secoué. Je ne peux plus rester insensible, si vous voulez, à la violence faite aux innocents. Ce qui m'a amené après à Sarajevo pour enregistrer les voix de l'oubli, la chorale de Sarajevo. Bon, ça c'est une autre histoire. Et ensuite au Moyen-Orient pour l'enregistrement d'une seule voix, ce corpus extraordinaire qui a réuni dans ces années-là, on a commencé en 2003, mais jusqu'en 2010, qui avait réuni un corpus extraordinaire de musiciens israéliens et palestiniens, malheureusement dans un Moyen-Orient qui aujourd'hui fait tristement l'actualité. Nous cherchions, avec Madame Diomgar, qui est la directrice du label, nous cherchions une compagnie de 10 sur laquelle placer cette production. L'expérience que j'ai eue dans le métier, en tant que producteur de musique classique, mais aussi en tant que musicien de rock, on a longuement réfléchi et on ne voulait pas, laisser cette production dans les mains d'une major ou dans les mains d'un autre label. Et nous avons donc décidé à cette occasion, pour publier l'enregistrement d'une seule voix, de créer notre propre label. Et ainsi est né Ad Vitam Records.
Dans votre écurie, vous avez produit une brochette de formidables pianistes comme Maxime Zekini, Roustem Saïdkoulov et Tristan Pfaff, que nous connaissons très bien ici sur IDFM Radio. Parmi vos dernières parutions, il y a les enregistrements du remarquable pianiste François Mardi-Rossian qui offre une lecture renouvelée, très vivante, de l'intégrale des études du musicien minimaliste américain Philip Glass, un double album qui a été très logiquement récompensé par les revues spécialisées. Vous avez été le responsable de l'enregistrement, Jean-Yves.
Oui, je suis passionné par la prise de son, donc je ne joue plus maintenant, mais je ne peux pas vivre sans musique, donc j'assure généralement les prises de son du label. Et j'ai eu grand plaisir à enregistrer ce disque de Philip Glass avec François. Nous avons aussi... C'est un musicien qui se penche beaucoup sur la musique minimaliste, donc il nous a fait découvrir Ovanès. J'aime beaucoup travailler avec ce musicien et continuer dans cette démarche de faire connaître et de porter à la connaissance d'un public plus large cette musique minimaliste américaine, mais dont le grand-père n'est autre pour moi qu'Eric Satie.
Absolument. D'ailleurs, c'est un autre disque que vous avez publié. On va écouter l'étude numéro 3 de Philip Glass par François Mardi-Rossian. Thank you. Philippe Glass sur IDFM Radio, extrait de cette superbe intégrale des études pour piano, sortie en 2022 sous le label Ad Vitam, dont vous êtes le producteur, Jean-Yves Labatte de Rossi. Alors il y a des découvertes, parce que dans la vie, comme lors de cette aventure en Ouganda et comme producteur de disques, vous n'hésitez pas à prendre des risques en sortant d'un oubli injuste certains compositeurs, comme Hovhaennes dont vous venez de nous parler. Et pourtant, c'est un compositeur qui pouvait se vanter d'avoir été joué au cours de sa vie par des personnalités aussi célèbres que Serge Rachmaninoff ou, dans un autre style, Keith Jarrett. Et ce pianiste que nous évoquions, François Mardy-Rossian, encore lui, a gravé un disque qui a été multiprimé avec, entre autres, je crois, un choc du magazine Classica.
Oui, oui, qui a même été... par Classica, considéré comme un des 20 meilleurs albums de l'année. Nous nous en réjouissons, bien sûr. Mais j'aime beaucoup, comme je vous le disais précédemment, travailler avec ce pianiste, avec François, parce que il va toujours à la découverte de quelque chose. Et là, du reste, le prochain disque que nous envisageons, que nous allons enregistrer, je pense, fin avril, début mai, sera un disque consacré à Keith Jarrett, vous voyez.
Ah, justement.
Donc c'est un musicien très, très, très ouvert. Nous prévoyons aussi un autre disque sur des transcriptions, justement, de musique électroacoustique, je dirais dans la famille rock-prog, des transcriptions plus classiques de certaines de ses œuvres. François est un musicien passionnant. J'en parle très honnêtement, je dis pas ça pour... voilà, pour braguer, mais... C'est un musicien aventureux et j'aime ça. Et nous aimons ça, du reste, sur Ad Vitam.
Bravo pour cette politique de votre label Ad Vitam qui offre au public un catalogue patrimonial de la musique avec des redécouvertes. Justement, on va écouter François Mardy-Rossian dans Dance Gazel de Alan Hovhaennes. Dance Gazel par François Mardy-Rossian, une pièce de Alan Hovhaennes, extrait d'un disque publié par le label Ad Vitam, dont notre invité Jean-Yves Labatte de Rossi en est le producteur. Alors, vous nous avez parlé de ces projets. Est-ce que vous avez bien sûr d'autres projets avec Ad Vitam que ces deux disques passionnants dont on aura l'occasion de parler ici à notre micro d'IDFM Radio?
Oui, nous avons d'autres projets. Nous continuons notre aventure pour la main gauche avec Maxime Zecchini, qui là va interpréter des auteurs différents. Le disque, je pense, va s'appeler En Voyage, donc ça veut tout dire, des compositeurs des cinq continents. Nous allons sortir très bientôt un disque de contrebasse avec la contrebassiste Lorraine Elstroffer-Durantel. Donc c'est un peu, voilà, faut y aller, quoi. Un disque de contrebasse, mais accompagné parfois de théorbes, de violon, même d'un orgue à un moment. Voilà, pour faire découvrir l'univers de cet instrument et proposer cet instrument de façon soliste, donc c'est une démarche aussi intéressante, et nous continuons dans la politique de notre label, plus exactement notre ligne éditoriale, fidèle à celle-ci, à faire découvrir de nouvelles œuvres et de jeunes et talentueux musiciens.
Et en tant qu'écrivain, avez-vous des projets, puisque vous avez un vrai talent d'écrivain?
Eh bien, écoutez, merci, c'est gentil. Oui, j'ai pris le virus. Pris le virus parce que je me suis pris à écrire et j'ai trouvé que c'est un mode d'expression que j'aime, que j'affectionne. Donc, j'ai vécu plusieurs aventures marquantes dans ma vie. J'en parlais un peu plus tôt, mon aventure à Sarajevo, justement pour apporter un témoignage à ces musiciens pour qui chanter ensemble était une forme de résistance à la barbarie. Je pense à la chorale de Sarajevo, qui était quand même composée de Serbes, de Croates et de Bosniaques, à l'époque où ils se déchiraient dans une guerre civile innommable. J'ai envie d'écrire ce que j'ai vécu avec eux et de porter encore une fois ce témoignage qu'ils portaient. Ils m'ont donné une grande leçon de dignité, d'espérance et d'amitié. Donc cette aventure est assez extraordinaire parce qu'elle nous mène jusqu'à l'évasion de la chorale par le tunnel, etc., etc. Et puis, si Dieu me prête vie, j'aimerais bien aussi écrire un peu dans la même veine, dans la même esthétique, l'aventure que j'ai vécue avec les musiciens d'une seule voix, ce corpus magnifique de musiciens israéliens et palestiniens. Et quand je dis palestiniens, c'est arabe israélien, cisjordanien et gazaoui. Et ce qu'on a vécu ensemble est un témoignage, justement, que je tiens à porter, notamment au regard de la situation actuelle et de cette situation qui se dégrade, malheureusement, lamentablement, au Moyen-Orient.
Bien sûr. Eh bien, écoutez, on vous souhaite longue vie, Jean-Yves Labatte de Rossi. Et en tout
Merci.
Cas, sur ces mots d'espoir.
C'est...
Mais sur ces mots d'espoir, on attend avec impatience, j'allais dire, vos nouvelles aventures. Merci beaucoup, Jean-Yves Labatte de Rossi. Bonne journée et
Merci
bon vent.
Merci.
À très vite sur IDFM Radio. Nous allons poursuivre notre émission avec le nouvel enregistrement paru chez Warner d'une chanteuse de jazz que nous aimons particulièrement, la coréenne Yoon Sun Na. En duo avec le pianiste américain John Cowherd, c'est un recueil de chansons rendu célèbre par des artistes féminines emblématiques, Nina Simone, Edith Piaf, Grace Jones et beaucoup d'autres. Un album déjà sélectionné par la presse avec 4 clés Télérama, le choc de Jazz Magazine, Rolling Stone, etc. Voici une reprise d'une chanson de Björk, Cocoon.
Restoring my blessings. Who'd have known that a boy like him, after sharing my core, would stay going nowhere? Who'd have known a beauty this immense? Who would have known a saintly trance? Who would have known miraculous breath to inhale a beard loaded with courage? Faint back into sleep, would. When I wake up the second time in his arms, gorgeousness, he's still inside.
Sunda était l'interprète délicate et sensible de Cocoon sur IDFM Radio, une chanson de Björk. Un titre un peu inattendu à retenir, White Rabbit, reprise du rock psychédélique de Jefferson Airplane, où la chanteuse laisse entrevoir quelle rockeuse elle pourrait être.
And one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. When the man on the chessboard get up and tell you where to go, and you've just had some kind of mushroom and your mind is moving low, go ask Alice, I think she'll know. Proportion have fallen sloppy dead, and the white knight is talking backwards, and the red queen's off with her head. Remember what the dormouse said, feed your head, feed your head.
and tell you where to go. And you've just had some kind of mushroom, and your mind is moving low. Go ask Alice, I think she'll know. When logic and proportion have fallen sloppy dead, and the white knight is talking backwards, and the red queen's off with her.
Yoon Sun-na, interprète de Jefferson Airplane, c'était White Rabbit, une autre reprise inattendue, ou plutôt une recréation du fameux libertango d'Astor Piazzolla.
Before seen him hanging round my door like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for the day. Shadows me back home, footsteps echo on the stones. Rainy night on Haussmann Boulevard, Parisian music drifting from the bars. Standing there alone, staring.